la brun, telle pièce.
Que le patriarcat est à peu près universel et que donc le christianisme ne l'a pas instauré, quoi. Qu'il a toujours existé, qu'il est toujours majoritaire. Seulement, il y avait aussi, au début du christianisme, des philosophies qui mettaient la vertu de la femme à l'égal de celle de l'homme. Les cyniques qui disaient la vertu de la femme est pareille que celle de l'homme, elle n'a pas à s'habiller différemment et tout ça. Or, ce n'est pas le cynisme qui a gagné, c'est le christianisme. Avec des idées telles que l'Immaculée Conception, le désir coupable, etc., qui n'ont pas forcément valorisé l'image des femmes. Donc je me demande si le christianisme n'a pas aussi rajouté encore du poids au patriarcat. Alors que d'autres philosophies auraient pu changer les choses, quoi.
La plupart, vous parlez du cynisme, des cyniques. La plupart des philosophies grecques, à commencer par celle qui a eu le plus d'influence en Europe, Aristote, était très, très misogyne.
Oui, bien sûr.
Et l'aristotélisme a continué à sévir, si j'ose dire, en tout cas de ce point de vue-là, à travers, oui, le christianisme, mais pas seulement le christianisme, à travers l'islam et le judaïsme aussi. Je parle de la littérature médiévale qui était complètement dominée par la pensée d'Aristote.
Oui, bien sûr.
Et jusque plus tard encore, je pense qu'on peut aller pratiquement au moins jusqu'à la Renaissance, et moi j'irai plus loin, pour parler de l'influence de la pensée d'Aristote. Et cette pensée, ce qui est très curieux, c'est que cet aspect-là des pensées grecques, d'Aristote et de Platon, entre autres, puisque ce sont celles qui ont eu le plus d'influence, je peux vous dire qu'elles n'ont été étudiées que très tardivement. La misogynie d'Aristote n'est apparue dans des études universitaires que dans les années, je dirais, 70. Auparavant, on s'attachait à toutes sortes d'autres choses, mais c'est aussi une caractéristique du patriarcat, ça. De ne pas du tout s'intéresser, de pas même être concerné par cette misogynie qui est vraiment à fleur de texte. Alors, si vous lisez certains textes médiévaux, chrétiens ou pas, c'est assez affolant de voir ce qu'on a pu écrire sur les femmes.
En effet, donc à ce propos, Cratès, le cynique, avait une épouse qui était philosophe et qui disait « Le temps que les autres femmes passent à faire de la couture, je l'ai passé à étudier. Voilà. »
Alors, vous savez...
Et ces hommes-là et ces femmes-là, si leur philosophie ou leur pensée avait eu autant de résonance que le christianisme, est-ce que le patriarcat en serait encore là? J'en suis pas sûr.
Ce dont vous parlez, c'est l'exception qui confirme la règle. Il y a partout des femmes, dans toutes les sociétés, des femmes d'exception qui ont étudié. Dans le Talmud, par exemple, il y en a une qui est considérée à l'égal des sages, qui s'appelle Brouria, qui est la femme de...
La fille de Rachid.
La femme de Rabbi Meir ou la fille de Rabbi Meir? Bon, peu importe. En tout cas, c'est une femme savante, sans la connotation de Molière, évidemment, et qui est admirée, citée, par les... Mais c'est une des seules, je dirais pas la seule, il y en a quelques autres, mais grosso modo, les femmes dans le monde du Talmud n'avaient pas accès au monde de l'étude. Non pas que ça leur soit interdit, mais ça ne se faisait pas. Il y a beaucoup de raisons à ça. On peut essayer d'analyser pourquoi. Dans aucune société, sauf exception, les filles n'ont eu droit à l'étude. À l'époque de Molière encore, c'était tellement exceptionnel qu'on s'est moqué. Alors je citais les femmes savantes à l'instant. Vous vous rappelez les répliques que Molière met dans la bouche de ces personnages? Et c'est vrai qu'à cette époque-là, eh bien, une fille apprenait au couvent à coudre et à cuisiner. Il n'y avait pas l'éducation des filles, ça n'existait pas, même au XVIIe siècle. Alors, vous me posez la question de savoir si le patriarcat aurait été différent. Je vous donne mon opinion personnelle, moi je ne crois pas. Je ne crois pas. Il faut lire les livres, par exemple, de Françoise Gritier ou d'autres auteurs, mais moi je pense surtout à elle. Je crois que cette concentration du pouvoir et cet accaparement de la parole par les hommes, c'est quelque chose qui est profondément logé au cœur de l'humain, au cœur de l'humanité, qui est, je ne sais pas si on peut dire naturel, en tout cas qui a été le cas partout. Et je pense que... Alors, je vais peut-être vous dire autre chose. Ce qui me semble pouvoir être dit dans le cadre des textes de la Bible, c'est qu'il y a des fenêtres, des passerelles, des ouvertures qui rendent le changement possible. Le changement, oui, il est possible. Je citerai juste un verset de Osée, du prophète Osée, dans le chapitre 2, je crois, du prophète Osée, qui dit ceci en parlant des temps messianiques. Vous savez que l'idée des temps messianiques, c'est-à-dire d'une époque où les choses iront mieux, dans les temps messianiques, dit le prophète, tu ne m'appelleras plus Baali. Alors, il faut savoir qu'en hébreu, il y a deux termes pour dire un mari. Il y a le terme Baal, qui veut dire mari, mais aussi propriétaire et maître. Et il y a le terme Ish, qui veut dire mari, mais qui veut dire aussi un homme, au sens humain du terme. Et le prophète dit, ce jour-là, en ces temps-là, tu ne m'appelleras plus Baali, mais tu m'appelleras Ishi. Et c'est un verset qui m'est très précieux, ça, parce que, précisément, il fait toucher du doigt cette idée capitale, et qui me semble être très centrale aussi dans le judaïsme, que les choses ne sont pas figées, que les choses ne sont pas bloquées, et que peut-être le travail d'une humanité digne de ce nom, c'est de dépasser ces déterminismes-là, ou ces naturalités-là, pour accéder à quelque chose qui soit de l'ordre de la justice. Voilà, ça c'est mon point de vue, la façon de voir les choses.
Des femmes d'exception, je pense qu'on peut en trouver un peu dans toutes les religions et dans toutes les époques. Enfin, côté chrétien, on peut penser à quelqu'un comme Hildegarde de Bingen. On peut penser aussi au rôle des femmes qui sont nommées dans les épîtres de Paul, dans le Nouveau Testament. On présente souvent Paul maintenant comme quelqu'un de misogyne, alors qu'en fait, il salue des femmes responsables de communautés chrétiennes. Et ce qu'on a très souvent gommé dans l'Église par la suite. Et puis, je ne sais pas, enfin, bon, je n'ai pas lu votre livre, mais j'aimerais bien, je suis assez intriguée par le personnage de Sarah, qui a quand même une forte personnalité, qui est aussi traitée par un objet comme Abraham, quand elle est donnée au Pharaon pour le confort et la survie d'Abraham, par exemple. C'est une histoire aussi assez fascinante.
On dit que dans la Bible, les femmes n'avaient pas de pouvoir. Or, dans les trois, Abraham, Isaac et Jacob, les trois patriarches, ce sont les femmes qui ont mis Isaac et Jacob avant les aînés. Elles ont cassé, c'était les aînés qui devaient, elles ont cassé la tradition et elles ont mis les leurs, ce qu'elles voulaient, devant. Et c'est la même chose pour Salomon. C'est sa mère qui l'a mis à la place de l'aîné. Donc ces trois femmes ont mis des personnages importants avant ce que les pères voulaient autrement. Alors elles ont le pouvoir quand même, les femmes.
Vous savez, les femmes dont vous parlez, bien sûr, mais c'est un autre type de pouvoir. Là où les femmes ne peuvent pas avoir le pouvoir ouvertement, et pas seulement les femmes, tous les faibles, lorsqu'ils ne peuvent pas accéder au pouvoir ouvertement, ils prennent des chemins de détournement, des chemins de contournement. C'est ce qu'on appelle en général la ruse, des chemins d'évitement, de contournement. Et c'est la ruse, c'est le pouvoir des faibles. Ce sont toutes les éminences grises, pensez à Aspasie, dans le monde grec, pensez aux reines de France, ou aux régentes, ou aux mères des rois qui ont gouverné par derrière. Je ne sais pas à peine que je vous en cite, il y en a suffisamment. C'est évident. L'appétit de pouvoir, Tacite disait que la passion la plus universelle, c'est l'appétit de pouvoir. Et elle n'existe pas seulement chez les hommes, elle existe aussi chez les femmes. La société, les sociétés ont été structurées de telle manière que le pouvoir réel, officiel, a été toujours accaparé par les hommes. Ça n'a pas empêché que par derrière, il y ait eu des influences. Voilà. Alors, pour en revenir au personnage de femme que vous avez nommé, que vous avez cité, les matriarches, effectivement, ont eu cette attitude de faire passer, on va dire, la promesse, pour utiliser les termes théologiques traditionnels, de faire passer la promesse, c'est-à-dire de faire passer le message qui devait passer, non par l'aîné, c'est-à-dire par celui qui était le premier-né, celui qui naturellement aurait dû l'avoir, mais par le second, qu'elle jugeait plus méritant. C'est le cas de Sarah, c'est le cas de Rebecca, et c'est le cas aussi de Bethsabée. Alors pour Bethsabée, vous savez, on peut, là aussi on peut lire comme on veut ou comme on peut, mais pour Bethsabée, elle a fait la même chose qu'ont fait toutes les reines ou toutes les femmes de roi qui ont voulu faire passer leur fils avant le fils de la rivale, avant le fils de la concubine. Alors on peut donner, on peut lire ça avec un contenu moral ou éthique, on peut simplement le lire sur un mode politique et sur un mode d'appétit de pouvoir. Voilà. Mais c'est la vieille dichotomie ou la vieille opposition, contradiction, complémentarité entre le pouvoir officiel et le pouvoir officieux.
Et à deux femmes qui ont aussi utilisé fort adroitement des ruses, je pense à Tamar d'une part et à Ruth d'autre part. On les voit à la manœuvre d'une manière tout à fait passionnante. Vous pouvez peut-être nous en dire quelques mots.
Alors ce sont deux femmes que j'évoque effectivement dans le livre. Tamar d'abord. Tamar, c'est la belle-fille de Judas. Judas, c'est l'un des fils de Jacob, le quatrième, de Jacob et de Léa. Et Judas a trois fils. Et le premier de ses fils, l'un de ses fils, épouse une femme qui s'appelle Tamar. Puis voilà que le fils meurt. Et le père, Judas, va marier Tamar au deuxième de ses fils qui meurt à son tour. Alors, le troisième, il a un peu peur de le lui donner. Voilà, une femme qui tue tous ses maris, enfin, qui tue, entre guillemets, mais qui a l'air d'avoir une influence tout à fait néfaste sur ses maris. Alors, il a envie de préserver le troisième, qui s'appelle Shéla, et il lui dit donc, retourne dans la maison de ton père, quand mon troisième fils sera grandi, tu l'épouseras. Et puis, Tamar attend, rien ne se passe. J'introduis la lecture midrashique. Tamar sait qu'elle donnera naissance à un ancêtre du Messie. D'accord ? Et autrement dit, que de sa lignée naîtra le Messie, à savoir celui par qui l'espérance arrive, hein, on va dire en gros comme ça. Et donc, elle va user de ruse, puisque le troisième fils ne lui est pas donné. Elle décide de s'attaquer, si j'ose dire, à Judas lui-même, qui entre-temps a perdu sa femme. Judas est veuf. Elle va donc se déguiser en prostituée, se couvrir d'un voile et se poster à un carrefour où doit passer Judas. Judas va voir cette prostituée et va lui demander d'avoir une relation avec elle. Elle accepte, et par précaution, il n'a pas de quoi la payer, il va lui envoyer un, un agneau, pour un mouton pour la payer, mais comme il ne peut pas la payer tout de suite, il lui donne des gages, trois objets qui lui appartiennent. Et voilà que Tamar rentre chez elle, Judas aussi, puis Tamar est enceinte. Et c'est terrible qu'elle soit enceinte parce qu'elle était promise à quelqu'un, et dans cet environnement-là, quand on est promise à quelqu'un, eh bien c'est comme si on était marié, donc elle est en état d'adultère et elle risque d'être condamnée à mort. Mais comme elle détient les trois objets remis, qui lui ont été remis en gage par Judas, elle les fait reconnaître par Judas, elle lui dit « l'homme de qui je suis enceinte est le propriétaire de ces trois objets ». Et alors Judas a cette phrase « elle est plus juste que moi ». Il reconnaît qu'il est le père de l'enfant à naître et il va donc l'épouser puisqu'il est veuf. Et elle va en effet donner naissance à deux jumeaux qui, dans la lignée desquels, naîtra David qui sera l'ancêtre du Messie. Voilà, ça c'est pour Tamar.
Et Tamar figure dans les ancêtres nommés de Jésus, de Nazareth. La tradition se poursuit là.
Et l'autre femme, c'était Ruth.
Ruth, oui.
Oui. Alors, c'est un Ruth, ça se trouve dans... ça s'appelle... C'est le livre de Ruth. L'histoire de Ruth, c'est une histoire très, très charmante et très vivante et très pittoresque. Ça se passe à l'époque des juges. Alors, je la résume très, très rapidement. Il y a une famille qui a quitté Bethléem au pays de Juda, même Bethléem qui se trouve à côté de Jérusalem. Et Bethléem, d'ailleurs, ça veut dire la maison du pain. Très joli. Alors, donc, cette famille a quitté Bethléem parce qu'il y avait une famine très, très dure. Et elle va s'installer en terre de Moab, un pays limitrophe. La famille se compose de quatre personnes, Elimelech, le père, Noémie, la mère, donc la femme d'Elimelech, et deux fils, Mahlon et Kilion. Au bout d'un certain temps, le père meurt en terre de Moab, et puis quelques années plus tard, chacun des fils à son tour. Les deux fils s'étaient mariés entre-temps avec des filles moabites, le premier avec une fille qui s'appelle Orpa, une fille moabite qui s'appelle Orpa, et le deuxième avec une fille moabite qui s'appelle Ruth, Ruth en hébreu. Donc, le père est mort, les fils sont morts, voilà que se retrouve toute seule Noémie, la belle-mère, avec ses deux brus, Orpa et Ruth. Noémie, qui est triste à mourir, décide de rentrer chez elle, à Bethléem, et elle demande à ses belles-filles de retourner chez leur, dans la maison de leur père, de leurs parents. Orpa et toutes les deux dans un premier temps s'obstinent à l'accompagner, à accompagner leur belle-mère, et puis en route Orpa décide d'être raisonnable, si je puis dire, elle rentre effectivement chez elle, mais Ruth s'obstine, elle veut accompagner sa belle-mère, mais l'accompagner dans le sens plein du terme, c'est-à-dire être s'associer au destin du peuple de Noémie. Elles arrivent donc toutes les deux à Bethléem. Elles sont très pauvres. Elles n'ont pas de quoi subsister. Et Ruth va aller glaner dans les champs. Il y a une loi qui oblige un agriculteur en Israël à ne pas ramasser les épis qui tombent. Vous connaissez, il y a des lois agricoles comme ça qui obligent l'agriculteur à laisser tomber les épis, à ne pas les ramasser, pour les pauvres qui viennent glaner derrière eux, qui ainsi vont avoir de quoi subsister. Donc Ruth va faire ça, elle va s'attacher au pas des glaneurs, des glaneuses, et elle va ramasser des épis. Le propriétaire du champ s'appelle Boaz. Boaz, c'est un parent de Noémie, et c'est un homme qui dans le texte est décrit comme un homme extrêmement bon et généreux. Il va repérer cette jeune glaneuse et il va demander à ses serviteurs de s'occuper d'elle, de faire en sorte qu'elle ne soit pas ennuyée, dérangée par les hommes dans les champs. Il va lui remettre des provisions également pour sa belle-mère. Et Noémie, qui est une femme de tête et de poigne, lorsque Ruth rentre et lui raconte cela, Noémie va lui dire « Eh bien, tu vas aller... cette nuit, tu vas te parer, tu vas t'habiller, tu vas aller cette nuit dans les champs où les moissonneurs, enfin où les glaneurs, les agriculteurs, les moissonneurs passent la nuit, et tu vas te mettre au bas de la couche où se trouve Boaz, avec l'idée que Boaz va l'épouser. Alors, je passe sous silence une stipulation légale qui était que quand un homme mourait sans enfant, je parle de façon, comment dire, la loi stricte qui est stipulée dans la Torah, c'est la loi du Lévira. Quand un homme meurt sans enfant, son frère, s'il peut le faire, est tenu d'épouser la veuve, et le premier enfant qu'ils auront sera considéré comme étant l'enfant de l'homme qui est du premier mari qui est mort. Ici, il ne s'agit pas de frère, il s'agit d'un élargissement de cette règle-là. Le proche parent, on demande au proche parent d'épouser la veuve et en même temps aussi de racheter le champ ou les champs qui ont appartenu au mari décédé, de manière à ce que la femme et les femmes de la famille ne soient pas laissées à la charité publique. Donc Noémie, qui connaissait tout cela, va organiser pour Ruth cette mise en scène. Ruth va s'installer pendant la nuit au bas de la couche. Elle va demander à Boaz de la prendre sous son aile, c'est très joliment dit, et finalement Boaz va en effet l'épouser et donc la prendre en charge. Et elle va être, elle aussi, l'ancêtre du Messie.
Voilà. Il faut relire Victor Hugo.
Il faut relire Victor Hugo. Beaux endormis. Beaux endormis. Magnifique le texte, d'ailleurs.
Et de là vient le Moshiach.
Voilà, c'est l'ancêtre du Moshiach.
Bon, juste revenir, quand vous avez parlé de Ève et du premier couple, vous avez... Votre langue a fourché, on va dire, vous avez dit le premier couple, non chronologiquement parlant, mais vous avez vite corrigé en disant symboliquement parlant. Alors je voulais juste dire que ça m'a amusé ou intéressé. Est-ce que vous vouliez vraiment vous distinguer de beaucoup de fondamentalistes qui ont assez de pouvoir actuel, qui reprennent du poil de la bête, comme on dit actuellement, ou... Oui, enfin, c'était...
Tout à fait, c'était oui, tout à fait c'était... intentionnel. Parce oui. que pour moi, il n'y a pas question d'imaginaire. Hmm? Je parle en mon nom, je ne suis pas engagée plus que l'autre. Pour moi, il n'est pas question de penser que chronologiquement, à une année X du temps, il y a eu un Adam et une Ève, appelons-les comme ça, qui sont nés, qui seraient les ancêtres de l'humanité. Je pense que Adam et Ève, bon, disons le premier homme et la première femme, sont... sont le symbole ou le prototype de ce qu'un couple pourrait devenir. Non pas être, mais devenir. C'est-à-dire, l'idée c'est la suivante, c'est qu'à partir de ce face-à-face, ou de ce face-à-face qui est en même temps une opposition, il y a à construire un couple qui soit un... véhicule de dialogue, de vraies paroles échangées.
Par rapport à ça, vous avez dit que justement le nom d'Ève qui vient après, finalement on parle d'Adam et Ève quand même, alors que Adam c'est l'être humain. Alors là il y a un problème. Alors
oui, absolument.
C'est justement.
Il y a un vrai problème. C'est bien évident que si le récit qui a été transmis depuis de milliers d'années, si le récit transmis c'est celui d'un couple fait d'un homme et d'une femme qui a été tirée de sa côte, c'est pas gratuit. Je veux dire par là que c'est un couple inégalitaire. Cette histoire telle qu'elle est racontée là, c'est un couple qui pose l'inégalité comme point de départ.
Et en plus elle est tentatrice.
Il faut voir ce que raconte, par exemple, un père de l'Église comme Tertullien. C'est effrayant.
Sur
les femmes en général, mais Ève, c'est la porte de l'enfer, c'est le diable, oui, absolument, c'est le diable. Et donc, alors que quand vous prenez le récit, c'est un récit de vie qui est fait dans la Bible. On peut bien sûr tout transformer, on peut tronquer la lecture, on peut transformer la lecture, mais ce qui est raconté dans le texte biblique, si on porte attention aux mots, c'est une histoire qui est porteuse, alors, de vie, d'avenir, je vais dire. Une histoire qui est porteuse d'avenir et d'espérance pour les êtres humains. Et pas une histoire qui enferme chacun dans un rôle prédéterminé. L'homme, le pauvre qui a été tenté, par celle qui a introduit la mort. La Ève, c'est celle qui a introduit la mort dans l'humanité.
Alors que son nom
est rapporté dans le texte biblique comme étant celui de la mère des vivants.
Oui, non, mais justement, c'est pour ça que je voulais que vous reveniez. Moi, c'était pas ça ma question.
Non, mais là, vous m'avez engagé sur un chemin où je pars toute seule.
C'était justement le sens du nom et.
Oui.
Et puis comment finalement, mais dans le texte lui-même, cette fois indépendamment de toutes les bêtises qui ont été dites malheureusement pendant 2000 ans après, mais le fait, enfin j'ai pas le temps de dire, justement comment on glisse dans le texte lui-même, où c'est moi, ma mémoire est fausse, de parler au lieu, puisque Adam, c'est bien l'homme et la femme.
Oui.
Hein, c'est,
oui.
C'est anthropos.
Le glaise.
Oui, et du coup, on se trouve l'homme et la femme, et Ève, vous voyez, après, quand le prénom vient, on se trouve une sorte de couple androgyne, et puis Ève. Oui.
Si vous prenez le texte, vous apercevez par exemple que le terme Adam est utilisé jusqu'à la coupure. Jusqu'à la coupure, et après apparaît, mais pour un très bref instant, le terme de Ish.
Et du coup, après, il n'est jamais nommé.
Et après, Adam, c'est pas un nom propre.
Oui, non, mais justement, il n'est pas nommé.
Il n'est pas nommé.
Dans ce cas-là, le mec, il n'est pas nommé.
Voilà.
Cette fois, c'est la femme, Exactement. Qui est
nommée. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que si vous regardez le texte, le mot de Ish apparaît très exactement dans le verset suivant. C'est l'homme qui se réveille de sa torpeur et qui voit en face de lui un alter ego. Et qu'est-ce qu'il dit ? D'abord, il ne parle pas à la femme. Il parle de la femme. Et qu'est-ce qu'il dit de la femme ? À celle-ci, il sera donné le nom de Isha, car c'est de Ish qu'elle a été prise. Or là, il y a toute la supercherie.
Ben oui, c'est une imposture.
Toute l'imposture qui a eu une postérité énorme. Pourquoi ? Parce que justement, elle n'a pas été prise de Ish. Elle a été prise de Adam. Et le mot de Isha apparaît en premier dans le texte. Le terme de Ish n'apparaît qu'en deuxième. C'est-à-dire que le Ish n'advient que quand il est placé face à la Isha. Et lui, il a tout renversé. Il a tout renversé. Il a dit, le début du verset qu'il dit, de cette exclamation de soulagement, c'est ça. Celle-ci, cette fois-ci, est os de mes os et chair de ma chair. À celle-ci, il sera donné le nom de Isha, car c'est de Ish qu'elle a été prise. Et ça, c'est un passage extraordinaire de duplicité, d'imposture. Parce que elle est l'os de ses os et la chair de sa chair. Il l'annexe complètement, il en fait son double. Or, justement, pas. Il y a des ressemblances. C'est un être humain. Elle a été prise de Adam, mais elle a aussi des différences. Et la différence n'est pas prise en compte du tout par lui. Elle est annexée, elle est phagocytée. Et ensuite, il a ce retournement qui, pour moi, me semble extraordinaire, de dire que voilà, elle a été prise de Ish. Elle est donc toujours, définitivement, à tout jamais, secondaire, seconde, etc., etc.
Oui, mais donc, reconnaissez. Du coup, on voit là qu'il y a une imposture déjà dans la jeunesse.
Oui, mais qui parle là ? Mais qui parle ?
C'est bien en hébreu, c'est pas que
d'accord, mais c'est l'homme qui parle.
Oui, oui.
C'est pas le narrateur biblique.
Oui, oui, oui.
Et si c'est l'homme qui parle, on peut remettre en question ce qu'il dit. On peut toujours remettre en question.
Mais
je trouve que c'est extraordinaire de transparence et de signification, parce que, quelque part, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les hommes ont toujours... C'est quoi le patriarcat ? Les hommes ont toujours considéré que le tout de l'humanité, c'est le masculin. Quand Simone de Beauvoir, avec qui je ne suis pas toujours d'accord, Mais quand Simone de Beauvoir, en 1949, dit que la femme, c'est l'autre, c'est-à-dire celle qui est hors humanité, c'est vrai. Écoutez les discours, même aujourd'hui, écoutez les discours autour de vous, et vous entendrez ce son de cloche également. Et ça, c'est notre travail à nous, hommes et femmes d'aujourd'hui, de rectifier ces choses-là.
On voit bien que dans le grand sanatrie, il n'y a jamais de femmes.
Pas seulement au Beth Amidrash non plus.
Effectivement.
Et le Talmud est une œuvre d'homme, bien sûr.
Bien sûr. Quand vous parlez de Bruna, vous dites qu'elle, elle a voulu connaître les filles du pays. Et après, elle a eu toutes ces violences. Est-ce que c'était comme une punition parce qu'elle avait refusé la réclusion qui était celle, le fait des femmes? Le domaine public n'est pas toujours pour les femmes.
Alors,
c'est la question que je me pose.
Oui, oui. Alors, j'aime pas le mot, d'abord le mot punition, ou de sanction, ne figure pas du tout dans le texte. Mais vous n'avez pas compris la question. Madame demande si Dina, ce qui est arrivé à Dina après son désir de faire connaissance avec les filles du pays, si on peut le considérer ou si c'est présenté comme une punition parce qu'elle a refusé la réclusion.
Elle est partie sur le domaine public. Parce que pour certains, le domaine public, vous voyez bien, il y a des bars, il y a des endroits de domaine public où certaines femmes ne vont jamais. Voilà.
Ça a quand même changé par rapport à il y a quelques temps.
Oui, mais pas chez nous.
D'accord.
Voilà. Mais peut-être que dans ce temps-là, dans le patriarcat, est-ce que la femme avait le droit de sortir?
Alors, il semble, voilà, le terme batetse, là aussi, j'ai fait une étude de ce texte dans un livre que j'avais co-dirigé avec Sonia Lipsic, qui s'appelle « Quand les femmes lisent la Bible », qui était paru en 2007, je crois, et j'avais, un des articles que j'avais écrit, c'était une étude sur ce texte-là. On pourrait dire comme ça, le terme de sortir, batetse dina, c'est un terme qui est très très souvent utilisé dans le texte biblique, pour des tas de choses positives, comme par exemple la sortie d'Égypte, comme Moïse qui sort vers ses frères. Donc ça, les expériences fondatrices de Moïse, lorsque, ayant été élevé à la cour du Pharaon, le chapitre 2 de l'Exode nous raconte que Moïse est sorti vers ses frères et il a vu qu'un Égyptien a frappé un Hébreu, puis ensuite il a vu deux Hébreux se frapper, etc. Et toutes ces sorties-là sont connotés de façon extrêmement positive dans le texte biblique. Ici, alors est-ce qu'il y a des sorties négatives? Je crois que j'ai dû en noter une ou deux. Alors ce qui se passe ici, c'est que si on lit le Midrash, les très nombreux textes midrashiques qui commentent ce verbe « elle est sortie », on voit en effet qu'il y a une réprobation très très généralisée des textes midrashiques par rapport à cette sortie. Mais je voudrais quand même préciser, vous avez parlé de punition.
Oui, mais ça c'était peut-être les hommes ont voulu punir.
Alors, l'idée que je donnerais, c'est la suivante. C'est que dans une société dans laquelle les femmes sont vues comme des proies, et ce n'est pas une société forcément historiquement datée, ni géographiquement datée d'ailleurs, hein. Il y a des gens, des hommes, pour qui les femmes sont toujours encore à leur d'aujourd'hui des proies, hein. Il n'y a qu'à ouvrir la télé, ouvrir les journaux. Mais quand dans une société donnée, les femmes, de façon générale, sont des proies, il vaut mieux qu'elles ne sortent pas, en effet. Par précaution, par désir de survie, hein, c'est sûr que si vous allez, je vais donner un exemple bête, hein, si vous allez dans une société dans laquelle vous évoquiez tout à l'heure des endroits, des bars dans lesquels les femmes ne peuvent pas aller, si dans une société il est de notoriété publique qu'une femme ne va pas dans un bar, eh ben, si elle va dans un bar, elle s'expose, il n'y a pas d'autre mot. Il me semble que les commentaires midrashiques que je cite dans cet article-là dont je vous parle s'élèvent contre l'imprudence qu'il y a à sortir dans une société où les femmes sont considérées comme des proies. Maintenant, que ce soit une punition, soit sur un plan théologique, soit sur un plan le punition, le mot punition ne me semble pas convenir.
Oui, mais oui, il ne doit pas convenir.
Ne me semble pas convenir.
Provocation.
Oui, dans certains types de société.
On vous avait dit une imprudence. Une imprudence de jeune. De jeune fille.
Voilà. Alors là encore, hein, dans, Dieu merci, dans nos sociétés occidentales, quand même, les choses ont changé. Et de façon générale, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'exception, mais de façon générale, quand même, les femmes sortent. Les femmes sortent. Essayez d'imaginer, dans la société grecque antique, les femmes ne sortaient pas. Elles étaient dans le gynécée. Elles étaient enfermées dans le gynécée. Et c'est clair que dans un type de société comme ça, une femme qui sort, eh bien, c'est une invitation, quelque part, elle attire la violence. Mais c'est ce type de société qui est à réformer, à changer. Hein, c'est clair. On vit dans une société, moi j'arrête pas de dire que, Dieu merci, on vit dans une société ouverte, dans laquelle on peut se parler, dans laquelle on peut faire des choses, hommes et femmes ensemble, et construire, et parler, et dialoguer, voilà, dialoguer comme le dit la Bible dans la Genèse.
Vous avez une vision optimiste des choses, parce que c'est pas toujours vrai.
C'est vrai.
Il
n'y a que les gens qui arrivent à avoir des visions optimistes qui arrivent à changer.
Si je peux me permettre une petite précision, je crois savoir que c'est Rachi qui a autorisé les femmes à sortir. C'est lui qui autorise les femmes. Il explique qu'une femme peut très bien aller vendre des œufs au marché ou bien si monter à cheval si elle est employée chez la femme du Seigneur, si elle va chercher du travail. Il n'y a pas à la taxer de mauvaise vie ou de mauvaise intention si elle c'est pour... La subsistance pour le travail. Voilà.
Alors, ce à quoi vous faites allusion, ce sont les chaleurs, ce qu'on appelle les questions-réponses, puisque la société juive, traditionnellement, fonctionnait avec ce type de questionnement. Un juif demande au rabbin, est-ce que dans telle circonstance, c'est permis de faire ceci ou cela? Et on a des chaleurs et chouvottes de Rachi, qui sont extrêmement précieuses d'ailleurs parce qu'elles nous renseignent sur la vie quotidienne à cette époque-là. Mais ce que vous dites m'inspire le commentaire suivant, si je puis dire, c'est qu'à l'époque de Rachi, donc en France, en Champagne, au XIe siècle, contrairement d'ailleurs à l'idée qu'on se fait d'habitude du Moyen-Âge, les femmes étaient très libres. La vie des femmes, à cette période-là, était bien plus libre qu'on imagine. D'où vient qu'on s'imagine le Moyen-Âge sous des termes tellement obscurantistes? C'est sous l'influence après de la Renaissance. La Renaissance a voulu noircir, et c'est le cas de le dire, tout ce qui se passait. N'oubliez pas quand même que l'amour courtois est né au Moyen-Âge, et que l'amour courtois, c'est une idéalisation des femmes. On l'a mise à une place où l'homme devait la conquérir, mais elle était la maîtresse qu'il fallait conquérir par ses exploits, par ses capacités, son courage, son endurance, etc. Et même dans le monde juif, beaucoup de gens seraient, de rabbins d'ailleurs, seraient surpris, parce que tous ne le savent pas, eh bien, ce que vous dites le montre bien, il y avait une beaucoup plus grande liberté des femmes qu'on ne l'imagine. Il y a eu au Moyen-Âge, alors je ne saurais plus vous dire où, mais j'ai ça dans mes notes, une femme, alors je vais faire sauter au plafond peut-être certains, une femme qui enseignait dans une yeshiva. Une yeshiva, c'est une école talmudique, dans laquelle, aujourd'hui, c'est impensable ça. Une femme qui entre dans une école talmudique, c'est carrément impossible. Elle enseignait dans une école talmudique, donc c'était dans les années entre 1000 et 1100. Elle était cachée derrière un rideau, pour ne pas induire en tentation quand même, mais elle enseignait. Ça veut dire qu'il y avait des femmes qui étaient suffisamment savantes, érudites, pour enseigner au niveau d'une yeshiva. Et ça ne posait pas de problème. Il n'y a pas un rabbin qui a sauté au plafond, qui aurait dit dehors, ces femelles que je ne saurais voir. Voilà. Et le Moyen-Âge est beaucoup plus libre pour les femmes qu'on ne le croit généralement.
Par ailleurs,
oui.
Je crois que c'est François Zolto qui dit que dans la nuit de l'humanité, la femelle ou la femme a renoncé à son pouvoir pour se mettre sous la protection de l'homme. Et je pense que dans ce petit jeu entre Adam et Ève et Ish et Isha, il y a peut-être une progression qui fait qu'à un moment donné, Isha renonce à quelque chose et se met sous la protection de l'homme.
Alors, je ne sais pas si vous faites. Moi, j'ai lu quelque chose comme ça chez Adonai. Peut-être François Dotto dit quelque chose comme ça aussi, mais ça me semble. Enfin, j'ai lu une explication comme ça, qui m'a semblé être très contestable. Quand on imagine la société antiquement préhistorique sous l'aspect de mâles très bestiaux et de femelles très bestiales aussi, et c'est un peu, bon, ça m'a pas du tout convaincue, et il justifie comme ça, il a un but en démontrant cela. Bon, enfin, c'est un peu, bon, j'ai plus en tête. Là, ça se trouve dans Adultère.
Dans Dolto, l'idée, c'est de dire il y a un renoncement pour protéger la famille, pour protéger les petits. Voilà. Ce renoncement-là, il est pour la protection de la progéniture.
Dans quel sens?
Je ne sais pas, mais en tout cas, je vois pas d'écho de cela dans le texte biblique que je vous ai cité. Dans le texte biblique que je vous ai cité, il me semble lire, si vous voulez, vous pouvez consulter Marie Balmary, qui a magnifiquement développé ce thème-là, en y arrivant d'une autre manière que par le Midrash, dans un de ses livres. Alors, comment s'appelle ce livre? Est-ce que c'est la traversée de l'Éden, peut-être? Elle n'en a pas écrit des tonnes. Il y en a un qui s'appelle la traversée de l'Éden, un qui s'appelle le sacrifice interdit. Et je crois que c'est dans la traversée de l'Éden qu'elle parle de ça. Et dans lequel?
Oui, je pense que c'est plutôt dans la traversée de l'Éden.
Et il y en a encore un autre, la divine origine.
Oui, la divine origine.
La divine origine. Ça doit être dans la divine origine. Et elle aussi, elle est très attentive au texte hébraïque. C'est très, très passionnant. Vraiment.
Justement, un peu, c'est monopole dans le pendant. Vous avez dit, c'était à propos de la femme de Lot, statufiée, etc. Vous avez dit, elle n'avait pas de vie intérieure, réduite au silence par les autres et par sa propre complicité. Et vous avez même dit, j'ai bien noté, car on ne réduit au silence quelqu'un d'autre que s'il est consentant. Là, moi, je serais un peu en désaccord avec vous parce qu'il y a tellement. Oui, puis exactement. Et puis depuis l'enfance qu'on est conditionné sous terreur, les enfants sous terreur qui grandissent, et les filles.
Hein, voilà. Il y a une articulation qui est
rompue. Voilà. Oui. Bon, c'est tout. C'est bien.
La femme de l'autre, moi ça m'interpelle un petit peu. Le fait qu'elle se soit retournée me fait dire que c'est un indice selon lequel c'est peut-être une sodomite, c'est-à-dire que peut-être, probablement, est-elle originaire de Sodome. Le fait de se retourner n'est pas innocent, à mon avis, n'est pas simplement la peur ou la curiosité. Je pense pas. Je pense qu'il y a quelque chose de plus profond que ça.
Ou on peut aller plus loin et dire que il y a un refus de l'avenir. On se retourne vers le passé. On se retourne vers le passé, elle est incapable d'envisager un avenir autre chose. Voilà, du changement.
Et de se suicider aussi.
Oui, peut-être. Tout ça, on peut imaginer. Mais c'est sûr que c'est un personnage qui est coupé de tout. Possibilité d'espérance ou d'avenir.
de Ruth, d'autant que ces dernières années, on a fait une lecture de Ruth comme la migrante. Mais ma question que je voudrais vous poser, c'est plutôt sur l'arrivée de femmes étrangères dans la lignée de, des Hébreux. Est-ce qu'il y a... Parce que pour Ruth, ça semble quelque chose de positif. Il y a d'autres femmes étrangères où on voit très négativement. Alors, quand est-ce qu'on voit positif, quand est-ce qu'on voit négatif?
Je crois que c'est très simple. Ruth a voulu... j'ai utilisé un terme moderne, donc je ne sais pas si c'est le meilleur, a voulu s'intégrer dans le sens de faire partie du peuple. Elle dit très clairement là où...